Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Nicolas Sarkozy est à nouveau candidat à l'Élysée. C'est désormais officiel. L'ancien président s'en explique dans un livre à paraître mercredi. Sarkozy qui va devoir assumer son bilan et ses déclarations passées. Nous verrons cela avec Frédéric Seyss. À 10 jours de la rentrée scolaire, le syndicat SNUIPP rappelle à François Hollande ses engagements. 54 000 créations de postes d'enseignants d'ici la fin du quinquennat. Nous ferons le point avec Hakim Kasmi. L'Europe comme rempart contre la guerre, c'est le discours martelé par François Hollande aujourd'hui lors d'un sommet avec Angela Merkel et Matteo Renzi. Nous écouterons le chef de l'État. Dans ce journal également, le procès d'un djihadiste malien devant la Cour pénale internationale. Ahmad Al-Mahdi s'est accusé d'avoir ordonné la destruction des mausolées de Tombouctou. Nicolas Sarkozy a donc mis fin aujourd'hui au vrai faux suspense. Il est candidat à l'élection présidentielle. L'ancien chef de l'État l'annonce dans un livre modestement intitulé « Tout pour la France » qui sortira mercredi. Un ouvrage où Nicolas Sarkozy parle beaucoup de l'identité française qui sera, selon lui, au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Sarkozy veut limiter l'immigration et organiser l'islam de France sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Des propositions qui tranchent avec la République inclusive d'Alain Juppé, toujours en tête des sondages pour la primaire de la droite. Pour espérer l'emporter, Nicolas Sarkozy devra aussi composer avec son bilan et ses déclarations passées. Et là, Frédéric Seyss, les obstacles sont nombreux.
La première difficulté pour le nouveau candidat est une archive, ces mots prononcés sur BFM TV en mars 2012.
Si vous perdez, vous arrêtez la politique.
Oui. Je ferai autre chose.
Une jolie ville.
Quoi ? Je ne sais pas.
Désormais, Nicolas Sarkozy, qui dans son livre place la vérité comme première exigence, devra s'expliquer sur ce revirement. Autre difficulté, le bilan de 2007 à 2012, une faiblesse que ne manquent pas de souligner ses concurrents. Pourquoi ferait-il demain ce qu'il n'a pas fait hier ? S'interroge Jean-François Copé en privé. Nicolas Sarkozy lui-même a reconnu qu'il n'était pas allé assez loin, alors pas sur le chômage ou sur la dette, mais sur l'autorité. Le Karcher, j'aurais dû le passer plus fort, a récemment expliqué Nicolas Sarkozy sur France 2. Enfin, parmi les obstacles à venir, les affaires judiciaires. S'il a bénéficié d'un non-lieu dans le dossier Bettencourt, Nicolas Sarkozy est toujours doublement mis en examen pour corruption active dans l'affaire dite des écoutes et pour le dépassement des plafonds des comptes de campagne en 2012 en lien avec l'affaire Big Malion.
Frédéric Seyss, alors comment réagit-on dans le camp d'Alain Juppé, le favori des sondages ? L'ancien Premier ministre ne s'est pas encore exprimé sur la candidature de Nicolas Sarkozy. En revanche, Benoît apparu, député LR de la Marne, salue l'entrée en campagne de l'ancien chef de l'État.
Parce qu'on savait tous, et on sait tous que Nicolas Sarkozy est revenu dans le jeu public et politique pour être candidat à l'élection présidentielle, en passant bien évidemment par la primaire. Il est en campagne depuis plusieurs semaines maintenant, il officialise sa candidature. C'est effectivement une bonne nouvelle pour la primaire, parce que ça veut dire qu'on aura un très beau casting pour cette primaire, entre Bruno Le Maire, Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy et tous les autres, bien évidemment. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle et c'est pas une surprise. Ma perception des choses, si vous voulez, c'est que ça se finira avec un premier tour relativement serré, pour ne pas dire très serré, entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Les sondages qui ont donné 45 pour l'un ou quasiment les 25 pour l'autre étaient des fantaisies. Les choses se rapprochent aujourd'hui, c'est naturel, c'est normal. Et je suis à peu près convaincu qu'au soir du 20 novembre, les deux candidats, je ne veux pas les qualifier de principaux, mais ceux dont les sondages nous disent qu'ils seront probablement en tête, seront Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Je pense qu'ils seront très proches l'un de l'autre et que c'est le second tour qui les départagera.
Benoît Apparu, l'un des principaux lieutenants d'Alain Juppé. Rappelons que la primaire de la droite aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. L'éducation sera sans aucun doute l'un des thèmes majeurs de la prochaine campagne présidentielle. Le SNUIPP, le principal syndicat du primaire, faisait sa rentrée aujourd'hui à 10 jours de la rentrée scolaire. Et l'organisation est inquiète car François Hollande s'était engagé à créer plus de 50 000 postes dans l'éducation d'ici la fin du quinquennat. Et le compte n'y est pas, Hakim Kasmi.
Oui, 54 000 postes d'enseignants précisément doivent être créés d'ici la fin du quinquennat, sauf qu'on est encore bien loin du compte. Rien que dans le primaire par exemple, il manque encore 7 à 8 000 professeurs, notamment pour le dispositif du plus de mètres par classe en zone d'éducation prioritaire, un dispositif qui permet d'avoir deux enseignants dans une seule classe pour aider les élèves en difficulté. Idem pour la scolarisation des moins de 3 ans, cher à François Hollande, seul un tiers des postes là ont été créés pour l'instant. À cela s'ajoute une crise des vocations obligation, puisque près de 700 postes n'ont pas été pourvus au concours cette année, sans compter la hausse démographique. Alors, si certes elle s'est stabilisée cette année, elle a connu une forte hausse pendant 4 ans. En maternelle, il y a encore 27 élèves par classe contre seulement 19 en Belgique. Pour Francette Popineau, la nouvelle co-secrétaire du SNUPP, il faut donc continuer d'investir dans l'éducation.
On ne peut pas se contenter d'une mandature sur l'école primaire. Elle a été trop victime de suppression, de maltraitance toutes ces dernières années. Donc effectivement, 4 ans n'ont pas suffi pour redonner un petit peu de baume au cœur et de souffle dans les écoles. Il faut continuer l'investissement. Les pays qui réussissent dans leur système scolaire ont investi beaucoup dans l'école. Nous, on est très en dessous. On est à 20% en dessous des pays de l'OCDE. Il faut vraiment continuer à investir dans l'école. C'est ce que nous envoyons comme message à nos futurs élus.
Alors malgré tout, le gouvernement a tout de même répondu à une demande très forte des enseignants, à savoir l'harmonisation de la prime, l'ISAE, des enseignants du primaire par rapport à leurs collègues du secondaire, une prime qui est de 1200 euros par an. Difficile de ne pas voir là une décision à forte connotation politique chez un électorat qui vote plutôt à gauche.
Hakim Kasmi, merci. Le tribunal administratif de Nice a validé aujourd'hui l'arrêté anti-Burkini de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Les juges ont rejeté les recours intentés par la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie en France. Le 13 août dernier, ce même tribunal administratif de Nice avait déjà validé un arrêté interdisant le burkini sur la plage, celui de la ville de Cannes. François Hollande est en Italie ce soir. Il dîne avec Matteo Renzi et Angela Merkel sur le porte-aéronef italien Garibaldi au large de l'île de Ventotene. L'objectif de ce sommet italo-franco-allemand, c'est de relancer la construction européenne mise à mal par le Brexit. Pour le président français, l'Europe qui est plus que jamais une nécessité face à la montée des conflits internationaux. Je vous propose d'écouter François Hollande.
Nous sommes devant des menaces, guerre à nos frontières. Terrorisme. Nous savons qu'il y a des conflits qui ne sont pas réglés. Je pense à ce qui se produit en Syrie, avec ce drame à Alep, cette catastrophe humanitaire qui un jour fera honte à la communauté internationale si nous ne faisons rien. Alors l'Europe, elle doit se constituer au-delà du marché, au-delà de la monnaie, en puissance politique au service de la paix. Et ceux ou celles qui voudraient s'en détourner, nous en connaissons dans tous nos pays, compris dans le mien, ne rendraient pas un service à la France et détruiraient non pas le rêve européen, mais la capacité pour la France dans l'Europe d'assurer sa responsabilité.
François Hollande, ce soir en Italie. C'est un procès inédit qui s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour pénale internationale de La Haye. Le djihadiste malien Ahmad Al-Mahdi, comparé pour crime de pierre, la justice lui reproche d'avoir organisé la destruction des mausolées historiques de Tombouctou en 2012. La grande ville malienne était alors occupée par les groupes djihadistes Acmi et Ansardine. Le compte-rendu d'audience de Pierre Benazé.
Ahmad Al-Mahdi plaide coupable devant ses juges de la Cour pénale internationale. Il demande aussi pardon pour ses actes à la population de Tombouctou. Il appelle même tous les musulmans du monde à ne pas commettre de tels actes qu'il qualifie par ailleurs de diaboliques. Il affirme qu'à l'époque, il était sous l'emprise des chefs locaux d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'Ansardine. Il était, affirme-t-il, comme emporté par une tempête de sable. Originaire de la région de Tombouctou, mais ayant grandi en partie en Libye, il parlait couramment arabe et avait été initié au wahhabisme. Ceci avait poussé les miliciens djihadistes à le choisir pour diriger la Hezba, la Brigade des Mœurs, chargée de lutter contre le vice. Les djihadistes cherchaient alors des alliés parmi la population locale et c'est ainsi qu'il avait été distingué. C'est au titre de chef de cette Hezba qu'il avait été chargé de ces destructions. Et pour le procureur de la Cour pénale internationale, c'est un facteur aggravant car étant originaire de la région, il ne pouvait ignorer la valeur de ces monuments. Plusieurs ONG et associations de victimes regrettent que les exactions commises à l'encontre de la population ne soient pas l'objet d'un jugement. Certains appellent à rechercher plus activement les chefs djihadistes survivants et d'autres demandent que les chefs d'accusation à l'encontre d'Ahmad Al-Mahdi soient élargis. Selon eux, en tant que chef de la Brigade des Mœurs, ils portent par exemple une part de responsabilité pour les décisions du tribunal islamique qui avait entre autres ordonné des lapidations.
Pierre Benazé, envoyé spécial de Radio France à la CPI, au pays. Un mot de la météo. Demain, un temps chaud et ensoleillé sur tout le pays. Les températures maximales sont en hausse. 27 à 33 degrés sur la moitié nord, 32 à 36 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.